J'imagine qu'il graffinait au téléphone pour intervenir parce qu'il est un maniaque, lui aussi, de l'entraînement. Bruno Gervais, bon matin.
Hey, bon matin, la gang.
Comment tu vas?
Moi, ça va très bien, vous autres?
Ah oui, en feu, en feu. Est-ce que tu allais au gym à tous les jours?
Oui, ben fallait pour l'entretien. Plus ma carrière avançait, j'ai eu des bad luck tôt dans ma carrière, des blessures. Puis m'a dit que ça faisait partie de... Tantôt, tu parlais de maintien, de gagner. Il m'a dit que oui, c'était pas mal, au moins... moi, c'était souvent 6 fois semaine. 4 de ces jours-là étaient 2 fois par jour. Puis mes séances là, de force, de pre-ad qu'on appelait, là, c'était du 2h30-3h. Fait que oui, beaucoup d'heures passées dans le gym, c'était pour être capable de survivre dans cette jungle.
Et tu travaillais sur quoi, surtout?
Ben un peu tout, parce que, tu sais, dans le fond, quand tu bâtis, puis on parle de l'entre-saison, quand tu vas bâtir un programme d'entre-saison, tu as plusieurs étapes. Tu peux pas arriver jour 1, OK, rempli le bench press, puis vas-y, pousse ta fonte. Tu veux bâtir selon ce qui t'est arrivé la saison précédente. C'est sûr que tu es débalancé, tu as certaines blessures. Tu veux essayer de réaligner le tout. Tu veux être droit, bien balancé. Tu veux pas être, tu sais, joueur de hockey, veut pas, c'est un sport qu'on est beaucoup vers l'avant, qu'on est même, on a un côté qu'on va favoriser. Fait que tu essaies de rebalancer, regagner la force de base partout, regagner tes amplitudes de mouvement, tu sais, tu soignes tes bobos, tu prépares la machine pendant quelques semaines, puis ensuite de ça, là, tu vas te mettre un peu plus spécifique en explosion, en force, qu'est-ce que tu vas aller gagner. Pour que ça soit une espèce d'escalier, que tu montes une marche à la fois, que tu sois capable d'empiler, puis après ça, à la fin, quand tu arrives au camp, tu es en pleine forme, tu as été gagné, que ça soit en explosion, en force, même en amplitude de mouvement pendant tout l'été, puis après ça, quand tu arrives au camp, là, tu veux piquer pas mal là pour être capable ensuite de le maintenir le mieux possible, le plus près possible de 100%, le plus longtemps possible. C'est ça l'objectif, c'est ça la job des préparateurs physiques dans la Ligue nationale.
Et est-ce qu'il y a un joueur que tu te rappelles, avec qui tu as joué à travers les équipes, qui était, plus en shape? Moi, je me souviens, à l'époque des Nordiques, on a parlé beaucoup de Stephen Finn à Québec, mm-hmm. qui s'entraînait beaucoup. Ouais. À l'époque aussi, Gilbert Delorme avec le Canadien, mm-hmm. je pense. Il y avait toujours des joueurs identifiés comme ça qui étaient des maniaques d'entraînement et qui étaient plus en forme que la moyenne des ours. Y en as-tu, toi, des gars avec qui tu as joué qui étaient vraiment au-dessus de la mêlée au niveau de la forme physique et de l'entraînement?
Ben, t'as toutes sortes, parce que j'ai joué avec des gars qui étaient des freaks de la nature, puis un Bill Guérin, c'en était un de la nature. Lui, il avait pas besoin de faire grand-chose, puis c'était juste un freak au terme de flexibilité, puis de force, puis de capacité physique, c'était incroyable. T'en avais qui étaient des rats de gymnase, qui étaient tout le temps dans le gym, tout le temps en train de travailler sur quelque chose. John Tavares en est un de ceux-là. John Tavares, à mes yeux, c'est un gars qui c'est pas des habiletés innées, c'est vraiment travaillé, là. C'est pas un talent qu'il a reçu, c'est un cadeau, puis il fait ce qu'il veut avec ça. C'est des habiletés qui ont été gagnées avec les années, puis il est tout le temps dans le gym, il est tout le temps en train de travailler sur quelque chose de spécifique à son sport. Puis t'en avais des gars, des fois, trop, c'est comme pas assez. Moi, je me rappelle Rick DiPietro, vous connaissez un peu l'histoire de Rick DiPietro, signe un contrat de 15 ans, puis je pense qu'il a fait une saison ou deux peut-être après ça, puis là, les blessures embarquées, puis il est jamais capable de revenir à ses capacités, là. Mais lui, c'était un peu trop. Puis une de mes années, on s'est présenté au camp de sélection. Ça, c'est ton gardien. C'est ton gardien numéro un, puis j'étais partner avec lui pour faire les tests physiques. Tu sais, d'entrée de jeu, quand tu arrives au camp, il y a les tests physiques. Puis je me rappelle, au bench press, on devait être capable de lever un certain poids 6 fois. Fait que c'était d'être capable de lever le plus pesant possible pour 6 répétitions. Fait que lui, il est arrivé à côté de moi, il fait juste avant moi, il demande à ceux qui étaient là, c'était une université qui venait faire les tests pour nous, il demande c'est quoi le record aujourd'hui, parce qu'on était un des derniers groupes. Fait que là, la fille lui mentionne le record. Il dit, il met 10 livres de plus de chaque côté, il le fait comme si c'était un échauffement. Puis il débarque, puis il dit, si quelqu'un le bat, viens me chercher, je vais revenir le battre. Bien, ça, c'est ton gardien numéro un. Il était bâti, c'était un maniaque. Mais c'est un peu trop. Ouais. Tu vois, lui, ça l'a amené à avoir des blessures, puis tu as besoin de flexibilité, puis d'amplitude de mouvement comme gardien de but. Puis ça, ça a vraiment nuit à sa carrière. Ça a même mis fin à sa carrière, le fait qu'il était pas capable de se laisser reposer ou se prendre soin de son corps en se reposant aussi, mais juste en poussant la machine. Il était en forme, c'était incroyable, mais ça n'a pas duré longtemps.
Maintenant, on est dans la période là où la saison commence. Je voyais hier chez le Canadien, c'était la photo d'équipe. Les gars s'installent. Ray, tantôt, m'a appris qu'il y avait une deuxième photo d'équipe parce
après
que...
Après la période de transaction.
Ouais, il y a souvent des mouvements dans tous les clubs. C'est-tu quelque chose de significatif pour les joueurs, la photo d'équipe? Puis comment ça se passait à ton époque?
Ben, c'est un classique, puis là, ça paraît, là, c'est des équipes avec du budget. Quand une équipe a deux photos d'équipe comme ça, ben, c'est une équipe qui a du budget. Tu vois, nous autres, à New York, on avait juste une photo d'équipe. C'était après la période des transactions. Puis tu vois, c'est arrivé une couple de fois qu'il y a des gars qui ont été échangés, fait qu'ils n'ont pas eu de photo avec les Islanders en début de saison, parce que nous, on la faisait juste après la période des transactions. Puis t'es arrivé dans une équipe qui, eux, aussi faute de budget, ne faisait pas une photo après la période des transactions. Avait déjà fait leur photo d'équipe, fait que lui, il se ramassait pas de photo d'équipe. Cette année-là, ça arrivait. Mais ouais, c'est un petit classique. C'est de quoi qui est long avant un entraînement. Mais nous autres, à New York, c'était très entertainment. C'était très divertissant parce que on était, vous le savez, on est au centre de la patinoire, près du logo. Là, t'as le photographe qui est dans les estrades sur ses escabeaux à prendre les meilleures angles possibles et à prendre la photo. Mais nous, notre propriétaire voulait que toute l'organisation, tout le staff qui existe pour les Islanders soit dans une photo. Fait qu'on faisait une première photo d'équipe. Après ça, on invitait tous ceux qui étaient près de l'équipe, qui voyageaient, etc. Puis après ça, on invitait tout le monde. Ceux qui travaillent dans l'aréna, ceux qui travaillent au marketing, ceux qui partout, ceux qui font le site Internet, peu importe. Fait qu'on se ramassait là, près d'une centaine pour prendre une grande photo. Sauf qu'on est au plein centre d'une patinoire, fraîchement faite, donc très glissante. Et là, tout le monde était bien habillé. Fait que là, arrivait le festival, après notre photo, arrivait le festival des talons hauts et des souliers propres qui devaient traverser la glace pour venir nous rejoindre. La première année, quand on a vu ça, le réflexe des joueurs en gentleman, on a voulu se lever et aller aider les gens qui traversaient. Mais là, ça avait fâché le photographe parce qu'on faisait des marques sur le logo. Donc, on n'avait pas le droit de se lever. Et là, les demoiselles et les messieurs qui travaillent pour l'organisation partaient du coin. Fait qu'à chaque année, ça avait l'air d'un derby de démolition. C'était un carambolage sur la 40 qui se passait du coin à se rendre au centre de la patinoire. Puis c'est de savoir, là, c'est devenu, on riait. Il y a eu plusieurs chutes assez spectaculaires. Qui allait tomber. Il y avait des petits paris, savoir qui allait être le premier ou la première à crouler, mais c'était assez rock'n'roll. Puis nous, on était assis, pas le droit de bouger, pas le droit d'aider à juste être témoin de cette scène-là. Fait que m'a dit que ça allait amener des scènes. J'aurais aimé ça avoir mon cellulaire, avoir une couple de vidéos de ça parce que c'était spectaculaire.
Est-ce que tu as chez toi des photos de tous les débuts d'année des équipes dans lesquelles tu as joué?
Ben ça, c'était une chose avec les Islanders quand je parle de budget. Il est arrivé. J'en ai quelques-unes. J'ai pas toutes les années parce qu'il est arrivé des éditions où on recevait ça comme ça avait l'air d'une photo prise avec un iPhone 2 que tu vas faire développer à la pharmacie sur un espèce de gros poster qui te roulait et qui te remettait. Fait que c'était pas peut-être qu'on n'avait pas une bonne équipe cette année-là, puis il s'était dit on va pas investir dans une photo. Je le sais pas, mais il y a une couple d'années qui manque à cause de ça.
Est-ce que c'est toi qui décidais qui étaient tes voisins de chaise ou de debout sur la photo? Comment, ou si vous arriviez tout bonnement, puis on s'installe, puis go, ça va être ça?
Ah non, c'était l'artiste, le photographe qui était là chaque année, était tout un artiste, puis il avait le plein contrôle. Il voulait créer les effets. Fait, il y a des années que j'étais en haut, il y a des années que j'étais dans le milieu, il y a des années que c'était les plus grands dans le milieu, puis il essayait de faire une espèce de... les plus grands dans le centre de la photo, puis là, ça descendait sur les côtés, ou je sais pas ce qui se passait. Il manque ce côté-là, là, artiste. Fait que lui, c'est lui qui décidait de quoi que ce soit. Il menait la parade, mais t'avais tout le temps le classique, là, t'en as tout le temps deux, trois dans l'équipe qui passent un peu trop de temps devant le miroir là pour se peigner les cheveux avant une photo de même. Fait qu'eux autres étaient souvent la cible d'une bonne brassée de cheveux juste avant que la photo soit prise. Quand le photographe lève le bras, puis il dit 3, 2, 1, puis là, t'avais un gars qui te passait dans les cheveux de ces gars-là, puis là, on prenait la photo. Fait que ça faisait des belles photos.
Est-ce que... Moi, c'est quand je vois... Toi, là, quand tu faisais les warm-up, tu faisais tout ça avec un casque ou comme plusieurs joueurs, là, tu te coiffais, puis je sais pas comment ils se réchauffent mieux sans casque, mais plusieurs joueurs avaient pris l'habitude de faire les périodes de réchauffement bien peignées plutôt que de porter le casque.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il y en a même des fois qui passaient devant la salle de bain. On avait tous les produits là, nécessaires pour habituellement après le match. Il y en a qui prenaient une petite poignée de gel, mais se mettaient ça dans les cheveux pour être certain que c'était bien stylé. Non, moi c'était souvent avec mon casque. À la demande, j'avais des amis qui descendaient à chaque année. Puis mes amis me disaient tout le temps la même affaire. En tout cas, moi, si je faisais une période d'échauffement à la Ligue nationale, j'aurais pas de casque, j'aurais les cheveux dans le vent. Tu devrais le faire. Fait, un moment donné, par la force des choses, j'ai invité tous mes chums au Madison Square Garden un 26 décembre, quand on jouait ces matchs-là près de Noël. Puis celle-là, je l'avais faite parce que moi, c'était bien simple, là, ma coupe de cheveux, c'était laisse pousser pendant toute la saison. Fait que quand je pouvais avoir une tuque, une casquette ou un casque sur la tête, je laissais pousser les cheveux. Fait que ça venait très long. Puis quand la saison finissait, ben il y avait tout le temps un événement de charité où on se faisait raser les cheveux. Fait que je me faisais raser les cheveux, après ça repartait, je laissais pousser. Fait que c'était assez simple. Mais rendu au mois de décembre, c'était assez long, ma coiffe. Fait que là, celle-là, je l'avais faite. Je m'étais assuré de bien mouiller les cheveux, de me licher ça par en arrière comme il faut, puis de faire ma période d'échauffement au Madison Square Garden. Mais ça, c'était à la demande de mes chums.
Bon, le Canadien est en action ce soir, 0-3. Honnêtement, tomber à 0-4, ça pourrait devenir inquiétant pour bien du monde. C'est un dur début de saison. Tu l'as déjà vécu et tu avais un coach à ce moment-là qui avait trouvé une recette, lui, à ce problème-là.
Ben oui, c'était une année et c'est un entraîneur que j'ai adoré, Tim Nolan, qui était excellent avec le côté humain des choses. Puis on avait commencé un voyage là dans l'Ouest où on avait fait l'Arizona, LA. C'était San Jose et le quatrième match était à Anaheim. Puis on avait échappé les trois premiers matchs, mais trois matchs où on a mangé des varlas. Tu sais, il y a certains matchs que le pointage n'était pas si gros que ça, mais on n'avait aucun contrôle du match. On se sentait même pas dans la même ligue. C'était au début de ma carrière. Fait que tu veux pas t'en faire une, c'est une chose. OK, t'en faire deux, et tabarouette, c'était deux minutes. Puis là, tu perds la troisième. C'était tout sur la route, mais quand même, la façon qu'on les perdait. Fait qu'après le troisième match, je m'attendais là, au classique, là, le bâton qui va se faire casser en deux, la poubelle kickée, se faire un à un apostrophé par l'entraîneur. Mais non, Ted Nolan est rentré dans la chambre, puis tout ce qu'il a dit, il dit, les boys, si vous apprenez à vous aimer en dehors de la patinoire, vous allez vous aimer sur la patinoire, ça va paraître, ça va vous aider. Donc, ce soir, c'est obligatoire que tout le monde soit ensemble pour aller prendre une bière, passer une belle soirée ensemble. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à vous aimer, puis ça va nous aider. Okay. Ça a été son discours de trois défaites. Fait qu'on a eu une belle soirée, puis je te rencontrerai cette soirée-là une autre fois en studio, mais c'était toute une soirée. Et le match d'après, on est allé battre les Ducks d'Anaheim chez eux, mais ça, c'était les Ducks, pas les Ducks de cette année-là. Les Ducks de Scott Niedermeyer, Chris Pronger, puis Nomley, qui étaient des champions. C'est l'année qu'ils ont gagné la Coupe, je crois, où ils avaient gagné la Coupe l'année d'avant. Fait que c'était toute une équipe. On a été débattre chez eux, 2-1. Là, ça leur mis notre saison sur la bonne voie.
Donc là, vous aviez des nouveaux joueurs, c'est tout ça, Bruno? Vous étiez une nouvelle gang ensemble, puis c'était ça un peu le but de Nolan, que vous appreniez à vous connaître dans d'autres circonstances que ça à glace, à se faire des passes ou quoi que ce soit?
Exact. Mais tu sais, c'est tellement important, le team bonding, puis tu sais, les liens serrés, puis on entend parler des gars, puis à quel point c'était serré le groupe l'année dernière, puis ça, ça a tout recommencé pour eux aussi. Puis oui, c'est important parce que t'embarques, ça va vite, hein. T'arrives au camp, tu fais tes choses. Il y a bien des gars qui font leur affaire, puis t'arrives dans la meilleure ligue au monde, puis tu veux juste performer, puis non, ils font leur petite affaire, puis encore plus aujourd'hui où c'est toutes des petites PME, là, et qui font leurs choses. Fait que d'être capable d'apprendre à se connaître, de s'apprécier, puis de créer cet élément-là, X, là, le facteur X, là, de plus que tu cares, tu sais, c'est important pour toi, ça tient à cœur cette équipe-là. Ça se bâtit quand tu passes du temps et tu apprends à connaître les individus. Fait que c'était l'idée de cette soirée-là. Puis je pense que c'est venu aussi dédramatiser le tout. Le fait qu'on était bien loin sur la route, c'est une chose, mais tu le sens, là, tu le sens la pression. T'es dans une business de gagner. Puis là, ça fait 3 matchs que tu joues, tu gagnes pas. Fait que ça a permis de comme tout oublier ça. Juste se concentrer sur le prochain match. Ça l'a aidé. On est revenu, on a eu bien du fun, on a ri, tu gagnes ce match-là. Un super beau voyage pour revenir. Là, tu arrives à la maison, puis tu te sens pas mal mieux comme équipe, malgré le fait que tu as une fiche, 1 victoire, 3 défaites, qui est pas super. Mais dans ta tête, c'est pas comme ça que tu le vois.
Mais ça reste que ça se fait sur la route. Donc, si on transpose ça à cette saison-ci, puis t'as raison, il y a beaucoup de nouveaux mondes chez le Canadien.
Il manque surtout des gars clés qui sont plus là.
Price, sont des
Weber,
leaders aussi.
Edmundson.
Les défenseurs, on va y arriver là, mais
Byron. Mais je veux dire, tout ce monde-là est absent. Là.
C'est vrai.
La 1 puis la 2, puis la 2 puis la 3, le coach, il vient faire son discours. Ça dure 1 minute, 2 minutes, des fois peut-être pas. C'est les joueurs qu'il faut qu'ils se resserrent ensemble. Puis sur le banc aussi.
Mais ont-tu besoin d'un voyage sur la route, peut-être, le Canadien? Dû prendre un petit périple à l'extérieur.
Imagine, c'est un affaire qui manquait beaucoup l'année passée. Puis il y a des gars qui sont sortis. Puis ce côté-là humain, il y en a pour qui? Un gars comme moi, là, moi, c'était super important. C'est la raison pourquoi je jouais quasiment. C'était, tu sais, t'es avec une gang, t'as du fun. Moi, dans l'autobus, depuis junior, c'était de me promener, d'aller m'asseoir, d'apprendre à connaître. Ça a tout le temps été ça. Puis là, ça a beaucoup changé. On le voit, le monde avec les écrans, les cellulaires sont un peu plus... c'est peut-être moins effet de groupe et de gang. Mais tu as besoin de ça. Puis l'année dernière, les équipes n'ont pas pu vivre ça. Tu arrivais à ton hôtel, tu restais pris dans ta chambre d'hôtel. Fait que c'était pas des messages textes ou des messages Instagram, TikTok, nomme-les. Tu ne pouvais pas échanger comme ça. Puis c'est Chris Wagner des Bruins de Boston qui était sorti en parlant de ça. T'sais, les gars ne peuvent pas voir leur famille, ne peuvent pas voir leurs amis. Mais même avec les coéquipiers, c'était compliqué. Le masque d'en face quand tu es à l'aréna, c'est ça. Fait que ça a été top pour ça. Fait que le Canadien qui a réussi puis qui parle de cette saison-là comme de quoi qu'ils ont été capables de tisser des liens serrés parce qu'ils ont vu ils ont vécu de quelque chose de très, très intense. Mais ça ne reviendra pas facilement cette année. Tu as plein de nouveaux visages, tu as plein de départs. Puis t'es dans un début de saison régulière qui est de 82 matchs, qui est un peu plus normal. Fait que là, faut qu'il y ait un effort de l'interne pour OK, une minute, on va essayer de souder ce groupe-là le plus rapidement possible.
Il y a beaucoup de talent offensivement chez le Canadien. Ils ont marqué seulement 3 buts en 3 matchs. Ray faisait l'analyse en début d'émission en disant écoute, souvent l'attaque va partir d'en arrière. Puis c'est vrai qu'actuellement, la brigade défensive du Canadien en arrache, c'est pas à peu près. Même si on signait David Savard, ça semble être très difficile pour lui. Romanov est tout mêlé.
Kulak,
c'est vraiment, vraiment difficile en arrière pour le Canadien.
Ben, présentement, oui, c'est comme ça un peu partout. T'as entièrement raison que la façon de sortir la rondelle, la façon de se supporter, il y a bien des choses que c'est difficile pour le Canadien qui ne permettent pas aux attaquants d'avoir la rondelle dans des zones où ils peuvent créer de la vitesse, entrer et créer une menace d'entrée de jeu. Il y a plusieurs éléments à ça. Puis, tu sais, on s'amusait à regarder, ça serait quoi la chose que tu changerais ou la chose sur laquelle tu travaillerais pour essayer d'améliorer, pour essayer d'aider l'équipe. À mes yeux, puis au dernier match, on l'a vu beaucoup, puis surtout quand tu as des défenseurs de qualité contre toi, comme Adam Fox, qui s'est amusé à faire des sorties de zone toute la soirée, bien contrôlé, puis remettre lui à ses attaquants la rondelle dans les endroits favorables. Je trouve que la façon qu'ils vont remettre la rondelle en territoire adverse, ils se tirent souvent dans le pied. Souvent, ils donnent des sorties de zone gratuites à l'autre équipe. Fait que tu fais un saut que tu lances ta rondelle, puis là, tu vas changer ou tu la lances à un endroit où que ton allié qui est en échec avant ne peut pas aller la chercher du tout. Puis là, c'est une sortie de zone gratuite. Ce que ça fait, c'est que quand tu sors facilement comme ça là, dans la Ligue nationale, 95% du temps, tu vas te rendre en territoire adverse, puis tu vas te rendre en territoire adverse puis être capable de soit avoir un échec avant ou garder le contrôle. Fait que ça veut dire que les Canadiens commençaient leur présence avec 10, 15, 20, peut-être 30 secondes dans leur territoire. Par le temps qu'ils sortent, ben, ils lançaient ça dans le fond, puis ça repartait de l'autre bord. Fait quand ça penche comme ça, un peu comme au football, quand il y a une équipe qui a une bonne position sur le terrain, puis qui amène le ballon presque jusqu'à l'autre ligne de but, puis là, tu kicks, tu commences au centre du terrain, puis ça repart. Tu mets beaucoup, beaucoup de pression sur ta défensive. Puis, il y a de la pression sur les joueurs du Canadien où tu es pas mal plus souvent en train de recevoir une attaque ou en train de recevoir l'échec avant que toi, remettre ça, puis être capable d'être agressif, puis toi, passer du temps de l'autre côté. Puis une fois que l'autre équipe sort du territoire, sont un peu plus fatigués, il y en a un qui va changer, fait que ça donne une chance. Fait que la pression présentement est sur les défenseurs du Canadien, puis juste par avoir des bonnes remises en fond de territoire adverse, des placements de rondelles, puis que tu établisses un échec avant ou un contrôle en territoire adverse, tu vas aider ta défensive. Fait que moi, c'est l'élément que si je mettais les patins là, d'entraîneur une journée, à mes yeux, c'est ça qui pourrait aider juste un peu le Canadien à passer plus de temps de l'autre côté.
Et une victoire aussi, là, ça va faire que tout le monde va retrouver le moral, puis ça va se décoller dans, souhaitons-le, dans le bon sens. Ben Bruno, merci beaucoup, puis on va suivre les matchs avec intérêt cette semaine, puis on se reparle la semaine prochaine.
Ben, si tu me permets, j'aimerais ça savoir, parce que ça va se passer entre, j'ai l'impression que ça va se passer entre mon Titan et les Remparts à Ray. Cette année dans Division S, dans Ligue junior majeure du Québec.
Oui, ça se peut bien.
Grosse saison pour les Remparts, tu penses, Ray?
Ben oui. Les Remparts, c'est peut-être la meilleure équipe des Remparts des 25 dernières années. Sincèrement, ils ont de la profondeur partout.
Puis tes Titans, qu'est-ce qui se passe, là? Ils sont 14e.
Pas le Titan. Ça, c'est les Sea Dogs. Les Titans sont premiers.
Les Titans sont premiers actuellement.
Oui,
okay.
Oui.
Puis vous les voyez, ils ont une bonne équipe aussi?
Très bonne équipe.
Ah ouais?
Il reste à voir.
Ils attendent, j'ai hâte de voir si Hendrick Lapierre va revenir. Il appartient aux Titans. Ça pourrait être une belle addition. Ça va être une belle course entre le Titan et les Remparts.
Très bonne équipe.
Je pense qu'on les sentira pas, les Titans, moi. j'aime ça. On va suivre également ça toute la saison, bien sûr, pour savoir lequel va peut-être mettre la main sur la Coupe du Président, puis ensuite la Coupe Memorial. Merci, Bruno. À la semaine prochaine.
Hey, salut, là.
Salut, bye-bye. Bruno Gervais, notre analyste des matchs de hockey. On vient dans un instant.